et de ne pas laisser accès à cette personne chez eux. Le thème de ce que nous allons partager ce matin est pareil. C'est un sentiment indésirable qui ne nous demande pas notre avis et qui s'installe. Parfois, il s'en va rapidement et d'autres fois, ça dure plus longtemps. Dans notre texte de ce matin, il est situé en dernière position de la liste des difficultés que l'apôtre Paul énumère. 2 Corinthiens 4, versets 7 à 10. Il nous dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonné, abattu, mais non perdu, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Donc il figure en dernière position dans la liste, donc abattu, mais non perdu. Abattu, c'est le synonyme de découragement. Nous allons nous pencher sur le découragement en ce matin. Nous l'avons déjà rencontré sur notre route et nous le rencontrerons encore. Nous pouvons remarquer qu'il est tout de suite suivi de découragé, mais pas abattu. Et non abattu, et ça change tout. Ça change tout. Le découragement touche tout le monde. Il ne demande pas si on est né de nouveau ou pas, ou si on est un chrétien affermi ou pas. Nous pouvons être tranquilles là-dessus. La période de pandémie que nous vivons depuis plus d'un an n'a fait qu'accentuer ce sentiment chez certains. Et chez d'autres, il a fait son apparition pendant cette période de pandémie. Nous l'avons vu chez certains personnels, chez le corps médical, quand les infirmiers et infirmières étaient découragés face au comportement de certains Français qui ne portaient pas les masques ou ne faisaient pas les gestes barrières. Et quand ils voyaient au travail des personnes souffrir, des personnes mourir, et ils étaient découragés. Les policiers aussi, ils vivent des moments de découragement quand ils arrêtent un malfaiteur et que 2 jours après, cette personne est dans la rue et les nargue. Le découragement aussi, les personnes dont les opérations ont été reportées sont découragées. On pourrait en citer d'autres comme les étudiants, les professeurs, le corps de l'éducation nationale. On pourrait en citer. Le découragement, on peut le classer en 3 niveaux. Le découragement qui s'en va rapidement. L'autre, deuxième position, découragement qui dure un peu et s'en va. Et en troisième position, le découragement extrême. Nous pouvons être découragés en tant que croyants. La maladie est là, perdure, et le découragement s'installe. Nous pouvons nous décourager face à l'injustice. Nous pouvons être aussi découragé par nous-mêmes. Lorsque nous voyons la faillite de nos efforts ou de nos élans sincères dans le domaine de la sanctification, on prend une résolution qu'on n'arrive pas à tenir. On échoue une fois, deux fois, alors qu'on veut plaire au Seigneur, mais on échoue. Ne nous décourageons pas. La Bible nous dit que nous a fait naître d'en haut et qu'il a placé un trésor en nous. Ce n'est pas pour nous laisser au premier stade, mais pour nous faire franchir des paliers. La grâce de Dieu est de nous amener à comprendre que la sanctification n'est pas le fruit de nos efforts, mais c'est la vie de Jésus en nous qui croit, le verbe croître, et qui triomphe. Personne ne peut forcer l'épanouissement. Prenons courage, Dieu regarde à notre cœur. Est-ce que notre désir est de progresser? Quel est le désir de notre cœur? Un enfant, quand il apprend à marcher, s'il tombe, il ne se décourage pas. Il se relève. Il tombe, il se relève jusqu'à ce qu'il arrive à marcher. Nous pouvons être découragés par nous-mêmes, par notre impatience. Parce que, à notre avis, Dieu nous fait attendre trop. Avec Dieu, il y a des étapes à franchir. Il y a le temps de l'écoute, il y a le temps de l'apprentissage, le temps de la formation, le temps où il va voir notre comportement. Sommes-nous fidèles dans les petites choses? Et le temps de la transmission. Tout cela concerne la formation pour le ministère, pour ce que nous allons en pouvoir laisser Dieu faire à travers nous au sein de son Église. Mais on peut le transposer aussi dans différents aspects de notre vie. Mais si nous nous décourageons, ce sera compliqué. Qui nous enrôle dans l'œuvre? Est-ce Dieu ou nous-mêmes? La Bible nous dit qu'il a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Comme je disais, un enfant ne peut pas brûler les étapes. Il va apprendre à marcher, il va apprendre à parler. Il va apprendre à obéir. Tout comme nous, apprenons donc à marcher avec Dieu et à lui obéir. Lorsque nous sommes certains de ce que Dieu veut pour nous et qu'on sait où il nous veut, nous n'avons pas à avoir peur de l'attente. Abraham en a un exemple dans Genèse 13, 14 à 18. Il nous est dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du haut du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham levant ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. En arrivant dans le pays de Canaan, il n'y a pas eu d'agitation chez Abraham. Dieu n'avait pas encore changé son nom. Il ne s'est pas efforcé d'accomplir les promesses de Dieu. Il ne s'est pas mis à tracer les frontières du pays ou à faire reconnaître ses droits par les habitants du pays. Tout cela, c'était l'affaire de Dieu. Il construisit un autel comme le texte nous le dit. Il s'intéresse à sa relation avec Dieu. Le plus important pour lui, c'était sa communion avec Dieu, sa relation avec Dieu. Et le Seigneur s'occupe du reste. Lorsque nous sommes certains de ce que Dieu veut pour nous et qu'on sait où il nous veut, nous n'avons pas à avoir peur de l'attente. Nous pouvons être découragés par nous-mêmes, par notre mauvaise conception de ce que Dieu nous dit. Nous cherchons la perfection dans l'autre. Dieu seul est parfait. Mais il nous appelle à tendre vers la perfection. Dans Matthieu 5, le verset 48, ce verset, il nous dit, Jésus nous dit, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et à travers tout le chapitre, Jésus, le sermon sur la montagne, Jésus va parler aux disciples et va leur enseigner le comportement d'un vrai enfant de Dieu. Ce comportement est à l'opposé des enfants de ce siècle, des enfants de ce monde. Et il va terminer en disant, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Tendre vers la perfection, être un véritable enfant de Dieu. L'apôtre Paul aussi, dans Colossiens 1, 28, 29, il va dire, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en nous. Mais le plus souvent, on sera déçu parce que nous sommes en chantier. Il y en a qui quittent l'Église à la moindre réflexion ou parce qu'ils ont vu quelque chose qui leur a déplu. Ils cherchaient la perfection dans les autres, alors qu'eux-mêmes ne sont pas parfaits. L'ennemi se réjouit de voir de telles situations, de voir des chrétiens découragés ou qui se trompent. Le découragement est l'une des armes que l'ennemi va utiliser pour nous affaiblir, pour affaiblir le chrétien, en lui envoyant quelques flèches empoisonnées de mensonges. Il est appelé le père du mensonge, Jean 8, 44. Son but est de décourager et de détruire. En nous rappelant les fautes que Christ nous a déjà pardonnées. C'est vrai qu'on ne doit pas le voir partout, mais en être conscient qu'il peut être derrière certaines situations. Il veut que nous marchions par la vue et qu'en voyant certaines choses ou en les entendant, qu'on soit découragé ou en panique. Deux exemples. Dans Daniel 3, 17, 18 et 25, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Shadrach, Meshach et Abednego avaient regardé au feu. S'ils avaient regardé au feu, ils auraient adoré la statue. Mais ils n'étaient ni découragé, ni paniqué par ce que l'adversaire leur montrait. Ici, en l'occurrence, le roi. Mais ils étaient focalisés sur ce que Dieu leur avait dit. Dans Ésaïe 43, 2, 3, il est dit, si tu traverses le feu, il ne te brûlera pas. Et si tu traverses l'eau, tu ne seras pas submergé. Daniel connaissait la parole de Dieu et il serrait cette parole dans son cœur. Et à la vue de ce que l'ennemi lui montrait, le feu, il ne craignait absolument rien, parce que ses yeux étaient fixés sur la parole de Dieu et sur son Dieu. Dieu veut qu'on marche par la foi. Ne pas regarder à ce que l'ennemi peut nous montrer ou ce que nous pouvons entendre, mais regarder au Seigneur à ce qu'il dit. Le deuxième exemple, c'est Moïse dans Nombre 13. Nombre 13, 31 à 33. C'est le retour des espions. Où l'ennemi va les utiliser. Nombre 13, verset 31 à 33. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ces dix hommes espions lui ont fait un rapport de la terre promise. Notons qu'ils étaient 12. Il y a 2 autres qui regardaient avec les yeux de la froid, Josué et Caleb. Mais ceux-là regardaient avec les yeux de la chair et ils ne pouvaient pas avancer. Ils ne pouvaient pas saisir la promesse que Dieu leur faisait. Moïse ne s'est pas laissé décourager et il n'a pas paniqué face au rapport que les 10 avaient fait. Parce que ces 10 marchaient par la vue. Les yeux de Moïse étaient fixés sur Dieu et sur sa parole. Sa parole, au verset premier, où Dieu dit à Moïse, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. » Envoie explorer le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dieu leur a déjà donné. L'ennemi va montrer tout ce qu'il peut montrer pour décourager, pour détourner. Mais Moïse était fixé sur ce que Dieu a dit. Le secret de Moïse, la foi en ce que Dieu dit. Il tient ferme en voyant celui qui est invisible. Hébreux 11, verset 27. Sommes-nous comme Moïse, Josué ou Caleb, ou sommes-nous de ceux et celles qui découragent et veulent décourager les autres? Dans le deuxième cas, nous faisons le travail de l'adversaire. Il détourne la parole de Dieu pour nous décourager. Mais il utilisera aussi des hommes et des femmes afin qu'il détourne la parole de Dieu pour accabler d'autres. Jacques 3, 8 à 11. Jacques 3, 8 à 11, et nous dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La sauce fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère, le figuier? Mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Ésaïe 50 au verset 4. Et nous dit, le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu ou découragé. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Voici la bouche et la langue que le Seigneur nous donne. Ésaïe nous rappelle à quoi Dieu voudrait que notre langue, notre bouche serve. Elles doivent être l'instrument de Dieu. Suis-je celui ou celle qui encourage ou décourage? David, dans sa vie, a commis quelques erreurs. Il a mangé le pain de proposition dont Jésus en parle dans Matthieu 12. Matthieu 12, 3 à 4. Il dit, mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Il a aussi fait le dénombrement que Dieu ne lui avait pas demandé de faire. Et le péché aussi qu'il a commis et qui a eu pour conséquence que l'épée ne s'éloigne jamais de sa maison. Et la mort de l'enfant et d'autres conséquences encore. Dans 2 Samuel 12. Mais David dit dans 2 Samuel 24, 14, « Tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Que je ne tombe pas entre les mains des hommes. David a expérimenté les compassions de Dieu, puisqu'après toutes les conséquences de ses actes, de son péché, dans 2 Samuel 12, et nous montre que Salomon va naître. C'est une grâce de Dieu. Qu'aurions-nous fait si David était dans notre assemblée? Est-ce que on l'aurait exclu? Est-ce qu'on l'aurait découragé? Ou est-ce qu'on l'aurait aidé à remonter la pente? La grâce de Dieu aussi envers David, c'est aussi ces moments de repentance que David pouvait avoir. Revenir au Seigneur. Souvent, nous pouvons être durs avec les autres et indulgents avec nous-mêmes face à nos fautes ou nos erreurs. On peut même utiliser la parole de Dieu pour nous justifier dans nos propres erreurs. Mais Dieu, il connaît toutes choses. Combien d'hommes ou de femmes dans le ministère ont été découragés ou peuvent être découragés par des attitudes ou par des paroles injustes? La source de ces paroles ou attitudes ne trouve pas ne se trouve pas en Dieu. La source de ses paroles ou ses attitudes ne se trouve pas en Dieu. Quelqu'un a rapporté ceci, ce témoignage, le témoignage difficile d'une amie de sa mère. Son mari de tradition catholique laissait sans problème son épouse aller à l'église évangélique. Jusqu'au jour où il croisa un membre de l'Église. Ce jour-là, rempli de bonnes intentions, Le chrétien commença à parler du Seigneur au mari pour le gagner à Christ. Au bout d'un certain temps, à court d'arguments, sans avoir pu convaincre son interlocuteur, le frère finit par fustiger les catholiques. De retour chez lui, le mari, blessé par les propos de l'homme rencontré, interdit formellement à son épouse de retourner dans son église. Pendant plusieurs années, la jeune femme dut aller aux réunions en cachette, même si par la suite, le chrétien regretta ses propos, le mal était fait. Le caillou avait été jeté et des années de tristesse s'en étaient suivies. Suis-je celui ou celle qui encourage ou décourage? Dans la Bible, il y a quelques exemples de découragement. Est-ce que notre découragement peut empêcher Dieu de nous utiliser? Non. Mais nous pouvons empêcher Dieu de nous utiliser en regardant qu'à nous, en fixant nos yeux sur nous. Avant de parler des exemples de la Bible, il est rapporté de Charles Spurgeon, le prédicateur anglais. À 17 ans, il devint pasteur. À 22 ans, il prêcha jusqu'à 10 fois par semaine devant des foules allant jusqu'à 10 000 personnes. 1834-1892. Il est décédé à 57 ans. Il est dit de lui qu'il a accompli dans une vie plus que toute autre personne pourrait accomplir dans deux vies. Il est aussi dit de lui qu'il souffrait de moments prolongés de dépression et d'anxiété. Ses problèmes psychologiques et psychiques et physiques étaient si graves, pas psychiques, mais physiques, étaient si graves qu'il pouvait rester alité pendant des semaines. Il dit à propos de cela: cette période de dépression m'envahit chaque fois que Dieu prépare une plus grande bénédiction pour mon ministère. Le nuage est noir avant qu'il éclate. Le nettoyage du récipient l'a rendu apte à l'usage du maître. Le jeûne donne de l'appétit pour le banquet. Le Seigneur s'est révélé au fond du désert, tandis que son serviteur garde le mouton et attend dans la solitude. Est-ce que notre découragement, parfois extrême, peut empêcher Dieu de se servir de nous? Non, mais cela dépend de nous. Tout comme Gédéon dans Juges 6. Nous allons prendre quelques textes. Gédéon dans Juges 6. Le peuple était découragé après les conséquences de leur péché. Et Gédéon était la seule. Ils pensaient que Dieu les avait abandonnés. Ils mettaient des choses en réserve de côté. Juges 6. À partir du verset 11, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térubin d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon était dans son découragement, en plein découragement. Et Dieu lui dit qu'il est avec lui. Dans un premier temps, Gédéon dit non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Mais Dieu va, à travers les versets qui vont suivre, Dieu va lui rappeler qu'il est là. Il va lui dire, n'est-ce pas, au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Va. Au point où tu es, peut-être avec ton état de découragement, le Seigneur te dit qu'il est avec toi. Il est avec nous. Et il nous dit, va. L'apôtre Paul disait dans... Il dit, c'est dans la faiblesse que la force du Seigneur s'accomplit. C'est dans sa faiblesse. Dieu est là dans nos afflictions et dans notre découragement. Est-ce que nous pouvons être découragés parce que nous trouvons Dieu injuste dans telle ou telle situation? Deuxième exemple dans la Bible, Jonas, lui, il a commencé par se réjouir dans Jonas 2:8, quand Dieu a permis que le poisson puisse le libérer. Il dit, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu au-dedans de moi. Je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ça, c'est pour lui, il se réjouit. Mais pour les autres, lorsque Dieu veut exercer sa bonté, il trouve injuste et il est découragé parce que Dieu est revenu sur sa décision. Le peuple s'était repenti. Chapitre 3. Au début du chapitre 3 et au chapitre 4. Jonas s'était découragé parce qu'il trouvait Dieu injuste. Et nous pouvons trouver Dieu injuste dans telle situation ou telle autre parce que Dieu agit comme n'a pas agi comme nous on le souhaitait. Et nous sommes abattus. Nous sommes dans la souffrance parce que nous voulions que Dieu agisse comme nous voulions. Il y a aussi Asaph, psaume 73, où Asaph, en regardant les méchants, comment ils prospèrent, Asaph dit, non, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur. Et il est découragé. C'est injuste. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu puisse lui révéler le sort final des méchants. Jusqu'à ce qu'il soit dans cette intimité avec Dieu, afin que Dieu parle à son cœur et lui montre les choses. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 1, 8 à 11, l'apôtre était confronté à 2 Corinthiens 2 Corinthiens 1, 8 à 11. Et nous dit, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. L'apôtre était confronté à une situation où il s'était senti profondément découragé, désespéré, à la pensée que cela pourrait prématurément mettre un terme à son ministère. À vue humaine, tout était fini, pas d'issue, mais pas pour Dieu. Le découragement nous montre que nous sommes des hommes et des femmes fragiles. L'autre situation de l'apôtre Paul, c'est dans 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 3, verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon la chair? L'apôtre était découragé face à ce manque de progression des Corinthiens. Ils sont toujours au lait, alors qu'ils auraient dû déjà progresser, être matures. Et là, ils en sont à besoin de pas de nourriture solide. Ils ne peuvent pas prendre de nourriture solide. Dans Hébreux 5 aussi, au verset 12, il dit, vous auriez dû déjà être des maîtres. Et là encore, il n'y a pas eu de progression. Et on peut penser aussi, Jésus face aux disciples, ce n'est pas facile. À chaque fois, il fallait les reprendre. Reprendre les disciples. Jésus leur parle, mais eux, ils pensent à qui est plus grand, qui est le plus grand. Ils ont d'autres préoccupations. Jésus aussi pourrait se décourager, aurait pu se décourager face à toutes les attitudes des disciples. Lamentations 3, 18 à 26 aussi, où Jérémie parle de cette situation où ils se sont découragés. Est-ce que quelqu'un peut lire Lamentations 3, 18 à 26?
Je lis, hein?
Oui.
Ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen.
Amen. Amen. Jérémie dit, et j'ai dit, ma force est perdue. Ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Grand moment de découragement pour Jérémie. Grand moment de découragement. Mais ses yeux étaient fixés sur Dieu. À travers ces moments de découragement, ses yeux étaient fixés sur Dieu. Verset 25, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Dieu, je vais terminer. Dieu est là au cœur même de nos afflictions et de notre découragement. Ne laissons pas l'ennemi nous dire le contraire, mais plutôt exhortons notre âme comme David. Quelqu'un peut lire le psaume 42, versets 6 à 7.
Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzar.
Amen. Dans son découragement, ses yeux étaient fixés sur Dieu. Ne laissons pas l'ennemi détourner nos yeux de Dieu, nos pensées de Dieu. Mais à travers nos découragements, exhortons notre âme. Exhortons notre âme, comme David l'a fait. Exhortons notre âme, notre espérance est en Dieu. Exhortons notre âme à ne pas rester dans l'abattement. Et on va terminer sur le texte que je disais que Josias va projeter. Est-ce que tu peux revenir sur ce qui était écrit avant? Le Seigneur est fidèle, il est avec nous dans ce que nous vivons. Faisons-lui confiance. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et le texte final. Que dirons-nous donc? De plus, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution ou la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Merci.
Merci, mon frère Thierry. Merci.